Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30, ce journal vous est présenté par Adrien Takoufo. Bonjour Adrien.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30. Bonjour Roman, bonjour à tous. À la une de ce journal, donc, du sang pour sauver des vies avec la générosité des donateurs volontaires. Une collecte de sang organisée par la Croix-Rouge débute ce jeudi jusqu'en fin avril. L'opération est prévue sur tous les campus de l'Université de Liège. Des jeunes diplômés de l'Université de Liège récompensés aux ERA Awards, leurs travaux de recherche sur le développement durable mettent en avant une approche à 360 degrés. Une belle mobilisation a vu le jour pour soutenir le restaurant côté cour, côté jardin. Et la cour et le jardin de cette salle ne seront plus fermés aux clients. Dans ce journal, Laurent Grolls évoquera cet élan de solidarité avec la responsable de l'établissement. Ce jeudi matin débute une grande collecte de sang au profit de la Croix-Rouge. L'équipe mobile est présente jusqu'à 15h30 ce jour à la faculté de médecine vétérinaire. L'opération se poursuit sur les autres campus de l'ULiège jusqu'à la fin du mois d'avril. Romain Dujardin.
L'objectif, permettre à la Croix-Rouge de toucher de nouveaux donneurs. Pour Thomas Paulus, chargé de communication pour la Croix-Rouge, les campus représentent un vrai atout.
La raison pour laquelle certaines personnes commencent à donner, c'est aussi parce qu'on a l'opportunité, la facilité d'aller donner. Et donc dans les universités, c'est offrir l'opportunité à des personnes qui n'ont pas encore donné de pouvoir donner leur sang. On sait que l'effet de groupe est important aussi et qu'il est encore plus présent dans l'enceinte des universités et des écoles supérieures.
Auriane Poncin est étudiante à l'Université de Liège. Elle a pris l'habitude de donner son sang car sa mère le lui a enseigné, mais c'est d'autant plus engageant lorsque la Croix-Rouge se déplace.
Clairement, moi qui circule en bus, je n'aurais pas été très loin pour faire un don de sang. Tandis que quand ce sont des petites collectes comme ça, comme celle faite à l'UNIF, c'est plus près, ça prend moins de temps d'y aller. Et honnêtement, c'est comme un petit pincement, il n'y a pas de vraie douleur avec l'aiguille. Et en 15-20 minutes, vous avez sauvé au moins une vie.
Si vous avez 18 ans, pesez au moins 50 kilos et êtes en bonne santé, mais hésitez encore, Thomas Paulus finira de vous convaincre.
La plupart des poches de sang vont être transfusées à des personnes qui en ont un besoin chronique. On pense par exemple à des personnes qui n'ont pas de système immunitaire. Sans ces injections régulières, ces personnes ne pourraient pas du tout avoir une vie normale, pas d'études, pas de sport, on ne peut pas sortir de chez soi parce qu'on attrape absolument toutes les maladies qui passent. J'aimerais inviter à la limite tous ceux qui nous écoutent de prendre un petit instant pour réfléchir au dernier moment qu'ils ont vécu, qui leur a donné le sourire. En donnant votre sang, c'est tous ces moments-là que vous permettez à nouveau à la personne qui va recevoir votre sang de vivre.
Toujours à l'Université de Liège, les ERA Awards ont rendu leur verdict. Quatre jeunes diplômés de l'institution sont lauréats de ce prix d'excellence, Luisa Demarquis.
Oui, Adrien, les Higher Education and Research Awards for Future Generations, ce sont des prix destinés à soutenir l'exigence et l'excellence des étudiants qui intègrent une approche dite à 360 degrés dans leur mémoire ou dans leur thèse de doctorat. C'est une approche qui se veut transversale autour du développement durable. Le but ici, inspirer l'ensemble de la communauté académique. Parmi les 7 candidats nominés de l'Université de Liège, 4 sont lauréats, parmi lesquels Eléa Picard. Suite à un cours sur l'approche à 360 degrés, elle a voulu ramener cette pratique dans son domaine, la santé publique.
Je n'ai jamais réfléchi vraiment à cet aspect à 360 degrés, donc par rapport à l'humain, à l'environnement, à la participation et à la prospérité. Et donc j'ai commencé à me poser des questions sur ma pratique, à me dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour en tout cas intégrer la santé environnementale. Et donc après, j'ai décidé de faire un mémoire là-dessus. Donc c'est comme ça que cette idée-là est venue et que le projet a démarré.
En participant à ce concours, le but pour elle était très clair.
De partager ma recherche, mais aussi dans le but surtout de faire bouger les choses dans le domaine de la santé publique. Pour moi, on aborde encore trop peu les pratiques vertes et durables dans le milieu des soins de santé, que ce soit dans les établissements comme les hôpitaux ou dans le milieu pharmaceutique comme je l'ai exploré dans ma recherche. Et donc je souhaitais vraiment que mon mémoire puisse avoir un impact.
Pour Eléa, devenir lauréate, c'est avant tout un tremplin, un moyen de mettre en avant son travail auprès de professionnels, du grand public et de faire bouger le monde de la santé.
Je pense que ça va être vraiment un tremplin. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place et qui nous permettent justement de pouvoir parler de nos sujets. Il y a beaucoup de perspectives futures à explorer en termes de pratiques de santé durable et surtout à mettre en place, que ce soit en lien avec mon sujet, mais aussi de manière plus générale dans les soins de santé. Et donc oui, j'aimerais vraiment continuer à m'investir dans ce domaine-là dans le futur.
Son mémoire autour du traitement des patients asthmatiques à l'aide d'une composante verte et durable sera présenté publiquement à l'ULIEJ ce 21 avril lors du webinaire consacré au prix Food System and Health.
Merci Luisa. Un rappel, la liste complète des lauréats et leurs travaux sont à retrouver sur le site uliege.be. Comme on vous le disait hier, le Japon est mis à l'honneur toute cette semaine à l'Université de Liège. Et le Japon, Vincent Renard, fondateur de l'ASBL Passerelle Japon, en connaît un rayon. Des rayons, il n'en manque pas dans sa boutique, remplie d'objets et de spécialités nippones. Florine Berger en a poussé la porte.
Bola, ramen, livre, déco, bienvenue chez Wabi Sabi. Nichée au cœur du boulevard Saucy à Liège, la boutique de Vincent Renard est un écrin japonais à visiter en de multiples occasions.
Wabi Sabi, c'est un bar, une boutique et une épicerie. On peut y boire un verre, un petit saké, un thé et aussi faire ses petites courses pour faire à manger.
Passionné de culture nippone, Vincent Renard s'est inspiré de ses voyages au Japon bien sûr, mais aussi aux États-Unis et au Canada.
En fait, à Montréal, il y avait un bar japonais et un peu plus loin, il y avait une boutique. Et je me suis dit, pourquoi pas rassembler les deux? On sait ce qu'on achète et aussi il y a des conseils. Voilà, dans les épiceries asiatiques, ils le vendent, il n'y a même pas d'explication, et débrouillez-vous quoi.
Ouvert depuis un petit mois, il s'attendait surtout à toucher des jeunes, mais c'est un tout autre public.
Des personnes qui sont peut-être plus intéressées par la culture japonaise que par les mangas, etc. Je pense qu'il y a assez de concepts ici à Liège basés là-dessus. Et ouais, je viens un peu compléter et on ne se fait pas concurrence, donc c'est génial.
La boutique est ouverte les mercredis et jeudis de 11 à 19h et les vendredis et samedis de 13 à 23h, mais bientôt aussi les dimanches.
Pour faire des activités sur le Japon, avec Passerelle Japon, donc la SBL, avec des cours d'origami, haïku, calligraphie, ikebana, l'art floral, voilà, beaucoup de choses.
Et notez que dès avril, vous pourrez également y manger.
Et la semaine du Japon se poursuit encore aujourd'hui et demain à l'université avec différentes activités à retrouver sur le site internet.
L'actualité en bref à présent, patrons et syndicats font de bonnes affaires. Un projet d'accord interprofessionnel est né de la concertation d'hier, Adrien.
Oui, Romane, salaire minimum, heures supplémentaires, chômage économique et fin de carrière. Les différentes mesures des précédentes négociations font de l'unanimité. De plus, les partenaires sociaux réclament le maintien des règles fiscales et parafiscales relatives à la pension complémentaire jusqu'au 1er janvier 2028. Le projet d'accord sera présenté aux différents syndicats pour consultation jusqu'à fin mars. Le ministre fédéral de l'économie se dit favorable à la mise en œuvre de ce projet d'accord à l'issue de sa validation.
Du changement également dans les remboursements des traitements du cancer du sein.
Les remboursements des traitements des cancers du sein prévus désormais dans les cliniques agréées uniquement. L'annonce du ministre de la Santé fait suite aux conclusions d'une étude rendue publique par le Centre fédéral d'expertise et des soins de santé. 30%, c'est le taux de survie dans les cliniques reconnues par rapport aux centres non agréés.
Vous êtes toujours sur 48FM, il est 9h38. On passe tout de suite à l'actualité internationale.
En Grèce, deux semaines après l'accident de train qui a fait 57 victimes, des manifestations sont prévues aujourd'hui, Laurent.
Oui Adrien, après le rassemblement de plus de 40 000 personnes à Athènes le 8 mars dernier, les citoyens grecs n'ont pas fini de manifester contre le gouvernement Mitsotakis. Tout le pays est en grève aujourd'hui pour contester l'état des services publics grecs. Même si la cause officielle de l'accident a été imputée au chef de gare, l'état des chemins de fer grecs n'a pas aidé. Une grande partie des transports devrait être paralysée et le réseau ferroviaire ne reprendra du service qu'à partir du 22 mars.
Et en France, la réforme des retraites doit être votée aujourd'hui.
Oui, et le suspense est de la partie. Rien n'est sûr encore à propos de cette réforme des retraites. Même si les Républicains ont déclaré vouloir adopter la réforme du gouvernement Macron, plusieurs membres du parti ne seraient pas de cet avis-là, mettant en doute le résultat du vote à l'Assemblée nationale. LR qui aura donc une importance capitale dans l'acceptation de ce projet de loi.
L'actualité sportive, victoire 4-1 pour la Gantoise sur les terres d'Istanbul, Başak Şehir, Florine.
En effet, après leur partage 1-1 à l'aller, les Buffalo se sont imposés et décrochent en premier leur ticket pour les quarts de finale de la Conference League. Après un début de match dominé par les Stambouliotes, les Gantois ont rapidement pris l'avantage, ne faisant qu'une bouchée des Turcs en première mi-temps. Hat-trick pour le Nigérien Gift Orban qui nous offre un triplé en moins de 4 minutes, rejoint par Hugo Kuipers à peine 3 minutes plus tard. Il s'agit du triplé le plus rapide de l'histoire en Coupe d'Europe. La Gantoise pourrait être rejointe en quart de finale par Anderlecht en cas de victoire des Bruxellois à Villarreal ce soir.
En cyclisme, Tim Merlier a conservé son titre sur la Nokere course.
Déjà vainqueur en 2022, le champion de Belgique a décroché sa 5e victoire de la saison. Pourtant dominé dans les derniers kilomètres par une échappée en rage de victoire, Tim Merlier a pu compter sur son coéquipier Bert Van Lerberghe pour lui ouvrir la voie et ainsi gagner l'arrivée.
Et en rallye, Thierry Neuville s'apprête à se lancer sur les routes mexicaines.
Troisième manche du championnat du monde WRC, le rallye du Mexique commence ce jeudi jusqu'à dimanche. C'est la 10e fois que le pilote belge prend le départ de cette course où il a fini au mieux 3e. Remise cette année au calendrier, c'est par contre la première pour les voitures hybrides.
Passons à la belle histoire du jour à présent, celle du restaurant côté cour, côté jardin. Mis en faillite au début du mois de mars, le restaurant qui avait distribué plus de 10 000 repas aux sinistrés des inondations en 2021 a pu rouvrir pour une semaine. Laurent Grolls est allé à la rencontre de la restauratrice Charlotte Despierreux, propriétaire du restaurant soutenu par sa clientèle.
Déclaré en faillite le 5 mars dernier, le restaurant a miraculeusement rouvert, et ce grâce à un crowdfunding mis en place pour aider l'établissement. Charlotte Despierreux, la propriétaire du lieu, en était la première surprise.
Alors je ne m'attendais pas du tout à ça parce que je ne le demandais pas en fait, donc ce n'est pas moi qui l'ai lancé. Et je n'y crois toujours pas en fait, quand je vois les chiffres, je n'y crois toujours pas. Donc je suis très surprise, mais dans le bon sens du terme.
Et le nombre de personnes qui tentent d'aider la restauratrice continue d'augmenter, atteignant des chiffres qui impressionnent la chef de côté cour, côté jardin.
Dans le crowdfunding, il y a plus de 690 personnes, je crois, qui ont versé, plus des gens qui ont donné de leur temps. Donc c'est impressionnant, en fait, le nombre de personnes, des messages, juste des messages de soutien, c'est déjà tellement beaucoup pour nous, en fait.
Désormais, le seul mot d'ordre qui règne dans la tête du personnel du restaurant est l'espoir.
L'espoir est revenu dans mon propre chef et dans le chef de l'équipe aussi, et puis apparemment aussi dans les clients qui nous suivent. Donc effectivement, l'espoir est là.
À voir désormais si le tribunal acceptera de retirer l'aveu de faillite la semaine prochaine. En attendant, ces jours-ci, côté cour, côté jardin, peut se permettre de rallumer les fourneaux.
Merci Laurent, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute attentionnée. À demain, même heure, même fréquence. Excellente journée sur 48 FM.